Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS et de retour pour parler politique et tenter de décrypter un petit peu cette après-élection d'Emmanuel Macron. J'ai le plaisir d'accueillir en direct dans les studios Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors, on a vécu cette élection ensemble, il y a 3h30 du matin.
Tout à fait.
Il faisait nuit, il faisait froid, mais c'était super sympa, vous avez organisé ça. On a 10 minutes pour décrypter l'avenir de cette élection, ce que ça veut dire. On va tenter de faire notre possible. Les enjeux, tout d'abord, donc une élection d'un président qui est le plus jeune de l'histoire de France, mais il y a bien plus derrière, il y a beaucoup plus d'enjeux que ça.
Alors, effectivement, Christophe, on a le président, un des présidents les plus jeunes de l'histoire de France. Mais clairement, Emmanuel Macron, maintenant, s'est inscrit dans la séquence des législatives. Et c'est l'enjeu principal à venir. C'est comment est-ce qu'on en avait déjà évoqué la dernière fois, comment est-ce qu'on lance la machine, comment est-ce qu'on lance, on crée la dynamique pour les législatives. Alors, si vous me permettez, on va faire un tout petit peu d'arithmétique politique. Simple élément de comparaison, au premier tour de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy avait recueilli 31% des suffrages. En 2012, François Hollande en avait obtenu 28,5. Emmanuel Macron en obtient 24. Donc clairement, on voit que le score du premier tour est un peu en défaveur d'Emmanuel Macron. Et malgré les 66%, Emmanuel Macron est totalement conscient que c'est d'une certaine façon encore le front républicain qui a fonctionné. Et il l'a d'ailleurs dit lui-même lors de son discours au Louvre, on ne lui a pas donné un blanc-seing. Avec ses 66%. Il a d'ailleurs parlé à ceux qui ont voté pour lui, mais il s'est aussi exprimé très directement et très clairement aux électeurs du Front National. Il ne les a pas culpabilisés. Il leur a dit qu'il leur donnera toutes les raisons pour ne plus voter pour le Front National dans les prochaines échéances. Et il s'est aussi adressé aux électeurs qui ont voté pour lui au second tour, mais qui n'adhèrent pas totalement ou pas du tout à son programme, en leur disant « voilà, ce n'est pas un blanc-seing ». Donc il y a véritablement cet enjeu pour Emmanuel Macron de lancer, mais même de créer une dynamique à partir de ce score au présidentiel.
Donc même si on dit qu'on redistribuait les cartes, parce qu'on en avait parlé dans l'entre-deux-tours, qu'on allait redistribuer les cartes à partir d'hier ou d'aujourd'hui, ce que vous me dites, c'est que les cartes sont redistribuées, mais pas forcément complètement. Il reste quand même des formations politiques qui n'ont pas encore implosé ou explosé. Donc si on commence à se placer dans ces législatives, il y a le Front National, donc avec Marine Le Pen, qui essaye clairement de se placer en tant que la vraie, entre guillemets, on ne voit pas faire ça à la radio, mais je fais des guillemets, la vraie opposition. L'enjeu, par exemple, d'un parti comme les Républicains, ça va être de dire à Marine Le Pen, non, la vraie opposition, c'est pas vous, c'est nous.
Exactement, Christophe. L'enjeu des Républicains et de François Baroin, qui va mener les législatives pour son camp, c'est de rester cette première force d'opposition dans le pays. Et l'enjeu pour les Républicains, si on prend ce parti politique-là, c'est d'endiguer, en fait, d'une certaine façon, la fuite que certains membres des Républicains pourraient opérer dans les jours qui suivent.
Vous pouvez dire ses cerveaux, la fuite de ses cerveaux.
La fuite de ces cerveaux-là et de rester cette première force d'opposition comme ils l'ont été pendant les 5 dernières années. Parce qu'on sait, en fait, que quand on est une force d'opposition dans le pays, en France, ça nous fait une formidable fenêtre pour les prochaines échéances électorales et les prochaines présidentielles. Donc l'enjeu pour les Républicains, il est là. L'enjeu pour le Front National, c'est de constituer aussi, eux, pour la première fois de leur histoire, une force d'opposition crédible, pas simplement d'opposition dogmatique, mais d'opposition crédible avec la construction de propositions au sein de l'Assemblée nationale.
Est-ce que c'est là le rôle de quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que c'est son rôle justement d'aider le Front National à casser un peu ses lignes et d'avoir ce lien avec la droite, entre guillemets, plus traditionnelle?
Alors, je vous avais dit la dernière fois que malgré les affaires, la dédiabolisation du Front National avait d'une certaine façon, pour moi, plutôt bien fonctionné. Clairement, l'enjeu maintenant de Marine Le Pen, c'est de continuer cette entreprise de dédiabolisation. Et vous avez tout à fait raison. Le fait de faire venir au sein d'une nouvelle formation politique, puisque le nom va encore changer, il faut de plus en plus effacer le Front National, l'héritage de Jean-Marie Le Pen. L'enjeu de faire venir des gens comme Nicolas Dupont-Aignan, c'est de rapprocher une droite un peu dure, une droite très conservatrice, de cette nouvelle formation politique en devenir. Et puis, faut pas l'oublier que c'est une élection présidentielle où on a eu aussi quatre blocs qui ont été très serrés à l'issue du premier tour. L'enjeu du Front de Gauche, lui, clairement, c'est aussi d'affirmer d'une certaine façon, je suis une vraie force d'opposition dans ce pays. D'ailleurs, je suis peut-être la seule vraie force d'opposition dans ce pays, puisque nous n'avons pas appelé à rallier, même sous une bannière Front Républicain, Emmanuel Macron.
Donc entre guillemets, voilà, on l'a vu avec Frédéric il y a quelques instants, mais entre guillemets, ce Front de Gauche est plutôt responsable des 10% de bulletins blancs et des 25% d'abstention. Ils sont quelque part là-dedans. Dans ces 35%, il y a le Front de Gauche quelque part au deuxième tour.
Tout à fait. Mais un de leurs enjeux, c'est de véritablement s'affirmer, ce qu'on avait aussi dit la dernière fois ensemble, comme la vraie force de gauche, puisque l'épicentre et de la droite et de la gauche va se déplacer pour ces élections législatives. Si on fait de nouveau un petit peu d'arithmétique politique là sur les législatives, on voit aussi que en 2007, au premier tour des élections législatives, la majorité présidentielle qui était composée à l'époque avant de l'UMP, du Nouveau Centre, du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, divers droites, avait obtenu 45% des suffrages et ce qui avait donné à l'issue du second tour 345 députés, donc une vraie et forte majorité. En 2012, la majorité présidentielle composée du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Radical de Gauche et du MRC de Chevènement avait obtenu 40% des suffrages et ça avait donné lieu à 331 députés. Il est là en fait l'enjeu d'Emmanuel Macron. C'est comment est-ce qu'à partir d'un score relativement faible au premier tour des présidentielles créer une dynamique, sachant qu'un récent sondage Kantar Sofres OnePoint et Harris Interactive donne simplement 24 à 26% de suffrage pour La République En Marche, donc qui va être le mouvement d'Emmanuel Macron. Donc comment est-ce qu'avec ce score, on arrive à l'issue du second tour des législatives à obtenir une majorité qui, je le rappelle, à l'Assemblée nationale est de 288 députés.
D'accord. Dans ce cadre-là, Emmanuel Macron doit former un gouvernement presque maintenant, cette semaine. Est-ce qu'on peut dire quel va être le rôle de ce gouvernement en sachant qu'eh bien il y a ces élections législatives qui arrivent dans un mois et demi, est-ce que ça va être un gouvernement de transition ou de démontrer que eh bien peut-être En Marche ça peut fonctionner par le biais d'un gouvernement?
Alors Emmanuel Macron a dit clairement ce ne sera pas un gouvernement de transition. Les personnes que je vais nommer dans les prochains jours sont les personnes qui resteront en place au gouvernement après les élections législatives. Donc c'est pas un gouvernement de transition, c'est véritablement un gouvernement qui doit être mis en place pour durer. Et son but, par contre, c'est d'être une vraie task force, une machine de combat à l'issue des législatives. Et c'est là où il y a une alchimie à créer de la part d'Emmanuel Macron. C'est comment est-ce que je nomme des personnes de la société civile, puisque c'est aussi la promesse d'Emmanuel Macron, mais en même temps des poids lourds assez importants pour mener une bataille législative qui est une vraie bataille politique où il faut, encore une fois, créer cette dynamique et un vote d'adhésion pour La République En Marche.
Et le fait d'avoir des gens il avait parlé d'un tiers de personnalités du monde civil dans un gouvernement. Est-ce que c'est là l'occasion de le faire? Est-ce que c'est presque, j'allais dire, l'occasion rêvée de le faire et que ce sera plutôt compliqué après les législatives?
Alors Emmanuel Macron, il y a une erreur qu'il ne doit pas faire et d'ailleurs qu'il ne veut pas faire, c'est de créer une ouverture, comme ça avait été le cas avec Nicolas Sarkozy qui avait un petit peu cherché des personnalités hors champ de la droite, ou comme François Hollande l'avait fait lui-même en cherchant par exemple des personnalités un petit peu hors gauche. Emmanuel Macron, lui, il a dit « je veux nommer des personnes de la société civile pour les compétences ». C'est-à-dire, si je prends l'exemple de Marlène Schiappa, qu'on a beaucoup vu, qui est une spécialiste de la question du droit des femmes, de la parité, etc., elle est pressentie pour peut-être avoir une responsabilité dans un secrétariat d'État aux droits de la femme, à la parité, etc. Donc, son enjeu, c'est de trouver les bonnes personnalités de la société civile prises pour leurs compétences et non pas simplement pour le symbole de prendre des noms politiques.
D'accord. Et ça va sûrement être plus compliqué que qu'on peut le croire.
C'est très compliqué parce qu'elles doivent être prises, ces personnes, pour leurs compétences, mais elles doivent nécessairement mener une bataille législative qui va être très difficile.
Donc, il faut apprendre la politique sur le tas.
C'est un des risques pour Emmanuel Macron, c'est qu'avec les premières nominations et premières désignations des candidats pour les législatives, il va aussi voir en fait que quand on fait de la politique, il y a des déçus.
Et donc, il y a des arrivistes. Il y a tout ce qu'il faut.
Et d'ailleurs, on le voit très clairement, même à droite, je pense qu'il y a autant de débauchage de la part du clan Emmanuel Macron que de propositions de services d'anciens, par exemple, ténors de la droite, qui se mettent en retrait, par exemple, de leur conseil régional, comme Christian Estrosi, qui affirme clairement, comme Bruno Le Maire, qu'il est tout à fait disposé à gouverner ou en tout cas à collaborer activement avec avec Emmanuel Macron. Donc la part des choses, elle va être à faire à ce niveau-là.
D'accord. En tout cas, ça va être, ce qui est sûr, ça va être des semaines et des mois très importants et très intéressants à suivre de la part de notre métier, journaliste. Merci Nathanaël. Nathanaël, c'était en tout cas très sympa de nous avoir fait suivre et décrypter ces élections. Et il n'y a aucun doute qu'on reste en contact pour les mois à venir.
Avec plaisir, Christophe.